Chapitre 47. Los Angeles, samedi 25 avril 1981. Harold était bâillonné et drogué quand on le relâcha à une rue de Disneyland. Lorsqu'il finit par reprendre conscience, il était assis au volant de sa Ferrari, entièrement vêtu, les mains libres, les yeux recouverts d'un simple masque de sommeil noir. Sa voiture était garée derrière une boutique de tapis en solde, entre une benne à ordures et un mur de briques. Harold descendit de voiture et s'appuya au capot le temps que sa nausée et son vertige se dissipent. Une demi-heure s'écoula avant qu'il se sente en état de conduire. Évitant les voies rapides, il s'engagea dans la circulation prenant la direction de l'ouest, puis celle du nord une fois qu'il eut rejoint Long Beach Boulevard et essaya de rassembler ses esprits. Il ne conservait des dernières 40 heures que des souvenirs flous et quasi oniriques, de longues conversations dont il ne se rappelait que des fragments, mais les traces de piqûres et les picotements laissés par la dernière fléchette lui confirmaient qu'on l'avait drogué, séquestré et torturé. C'était sûrement Willy. La dernière conversation, la seule dont il se souvenait intégralement, le prouvait sans l'ombre d'un doute. L'homme au passe-montagne était entré et s'était assis sur le lit. Harold aurait voulu le regarder dans les yeux, mais les verres réfléchissants ne laissaient voir que son propre visage hâve et mal rasé. « Tony, » dit doucement l'homme de sa voix à l'accent à la fois familier et irritant, « nous allons vous laisser partir. » À ce moment-là, Harold fut persuadé de l'imminence de sa mort. « J'ai encore une question à vous poser, Tony. » La bouche de son tortionnaire était le seul élément humain de son visage. « Comment se fait-il que ce soit vous qui fournissiez cette année la plupart des marionnettes humaines destinées à participer au concours de l'Island Club ?» Harold essaya de s'humecter les lèvres, mais il n'y avait plus une seule goutte de salive sur sa langue. « Je ne suis au courant de rien. » Le passe-montagne noir oscilla d'avant en arrière, les verres réfléchissants devinrent deux disques blancs. « Ah, Tony, inutile de nier, il est trop tard. Nous savons que c'est vous qui devez fournir les corps. Mais comment comptez-vous procéder? Vous préférez utiliser les femmes, n'est-ce pas? Les membres du club sont-ils disposés à ne jouer qu'avec des femmes cette année ?» Harold secoua la tête. « J'ai besoin de comprendre comment vous allez faire avant de vous dire au revoir, Tony. »«
Willy ?»
coassa Harold.
« Bon Dieu, Willy, vous n'avez pas besoin de faire tout ce cinéma, parlez-moi !»
Les deux miroirs se tournèrent vers le visage de Harold. « Willy ? Ah, je ne pense pas que nous connaissions une personne de ce nom, n'est-ce pas ?»« Bien. Comment se fait-il que vous puissiez fournir des sujets des deux sexes alors que nous savons tous les deux que vous en êtes incapables ?» Harold tira sur ses menottes, s'arc-bouta pour essayer de décapiter l'homme au passe-montagne à coups de pied. Sans se presser, l'homme se leva et alla près de la tête du lit, hors de portée des mains et des pieds de Harold. Il lui agrippa les cheveux et lui souleva légèrement la tête. « Vous allez répondre à cette question, Tony. C'est l'évidence même. Peut-être y avez-vous déjà répondu. Nous voulons seulement une confirmation de votre part à présent que vous êtes conscient. Si nous sommes à nouveau obligés de vous administrer un sédatif, cela retardera nécessairement l'heure de votre libération. » Cela retardera l'heure de votre libération. Bel euphémisme pour « cela repoussera l'heure de votre mort », pensa Harold. Et ça lui convenait à merveille. Si le silence, même un silence forcé, pouvait retarder l'instant où on lui logerait une balle dans le crâne, Harold était prêt à se montrer aussi silencieux que le sphinx, bordel. Mais il n'y croyait pas. Il savait, d'après ses souvenirs fragmentaires, qu'il avait déjà parlé tout son saoul. Il avait déjà craché le morceau sous l'effet des produits chimiques qu'on lui avait injectés. Si ce type était Willy, ce qui paraissait probable, alors il finirait par savoir ce qu'il voulait. Peut-être même que ça valait mieux dans l'intérêt de Harold. Il espérait encore que Willy avait besoin de lui. Il se rappela le visage du pion sur l'échiquier de Waldheim. Si ces deux geôliers étaient manipulés par Barend, Kepler, Sutter, ou une coalition des trois, il désirait seulement qu'ils confirment une information qu'ils possédaient déjà, ou qu'ils n'auraient aucune peine à obtenir. Quoi qu'il en soit, Harold avait besoin de dialoguer avec eux.
« Je paye Haynes pour me procurer des corps, » dit-il. « Des fugueurs, des anciens détenus, des informateurs auxquels le FBI a fourni une nouvelle identité. C'est lui qui va tout arranger. Ces types recevront un salaire et ils penseront que c'est le gouvernement qui les emploie pour monter un coup fourré. Quand ils se rendront compte que leur seule récompense sera la fosse commune, ils seront déjà enfermés dans un des enclos de l'île. »
L'homme au passe-montagne gloussa. Vous payez l'agent Haynes? Et qu'en pense son véritable maître? Harold essaya de hausser les épaules, s'aperçut que cela lui était impossible et secoua la tête.
J'en ai rien à foutre, et je crois que Barent non plus. C'est Kepler qui a eu l'idée de me confier ce boulot de merde. C'est mon QI qu'ils veulent juger, pas l'étendue de mon talent.
Les vers réfléchissants oscillèrent de haut en bas. Parlez-moi encore de l'île, Tony. Parlez-moi de ses aménagements, de ses enclos, de son camp, de sa sécurité. Dites-moi tout. Ensuite, nous aurons un service à vous demander. C'est à ce moment-là que Harold fut persuadé qu'il avait affaire à Willy. Il avait donc parlé pendant une bonne heure, et il avait survécu. Lorsque Harold arriva à Beverly Hills, il avait décidé de tout raconter à Barent et à Kepler. Il ne pouvait pas jouer éternellement sur les deux tableaux. Si c'était Willy qui avait manigancé son enlèvement, le vieux souhaitait peut-être même qu'il en parle à Barent. Connaissant Willy, ça faisait probablement partie de son plan. Mais si c'était Barent et Kepler qui avaient voulu mettre sa loyauté à l'épreuve, son mutisme risquait d'avoir des conséquences désastreuses. Quand Harold avait eu fini de raconter tout ce qu'il savait sur Dolman Island et sur les activités du club, l'homme au passe-montagne avait dit « Très bien, Tony. Nous vous remercions de votre aide. Nous avons encore un service à vous demander avant d'être en mesure de vous libérer.
Lequel ?
Vous dites que Richard Haynes doit vous livrer les volontaires le samedi 13 juin. Nous vous contacterons le vendredi 12. Nous vous enverrons une ou plusieurs personnes que vous substituerez à certains des volontaires de Haynes.
Bien sûr, avait pensé Harold. Willy va essayer de piper les dés.
Puis il perçut les conséquences de cette réflexion. Willy compte bel et bien aller sur l'île. Est-ce bien compris? Demanda l'homme au verre réfléchissant.
Ouais, d'accord.
Harold n'arrivait pas à croire qu'on allait le relâcher. Il était prêt à dire tout ce qu'on voulait, quitte à agir ensuite selon son bon vouloir.
« Et vous ne parlerez à personne de cette substitution ?»«
Non. »«
Vous vous rendez bien compte que votre vie en dépend. Maintenant et à jamais. »« Il n'existe pas de prescription en matière de trahison, Tony. »«
Ouais, j'ai compris. »
Harold se demanda si Willy ne le prenait pas pour un imbécile. Le vieux était-il devenu gâteux? Les volontaires, comme disait son geôlier, étaient numérotés et parqués tout nus dans un enclos en attendant qu'un tirage au sort décide des numéros des combattants et de leur ordre d'apparition. Willy n'avait aucun moyen de truquer la sélection. Et s'il comptait introduire des armes sur l'île par ce biais, il était bel et bien devenu le vieillard sénile pour lequel Harold l'avait naguère pris.
« Ouais !» répéta Harold. « J'ai compris, c'est d'accord. »«
Sehr gut, » avait dit l'homme au passe-montagne. Et on l'avait relâché. Harold décida qu'il appellerait Barent dès qu'il aurait pris un bain, bu un verre et discuté de toute cette histoire avec Maria Chen. Il se demanda s'il lui avait manqué, si elle s'était faite du souci pour lui. Il sourit en l'imaginant en train d'appeler la police pour signaler sa disparition. Combien de fois avait-il disparu pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans lui dire où il allait? Le sourire de Harold s'effaça lorsqu'il se rendit compte à quel point son style de vie l'avait rendu vulnérable au genre d'aventure qu'il venait de vivre. Il immobilisa la Ferrari sous le regard courroucé de son fidèle satyre et se dirigea vers la maison. Peut-être appellerait-il Barent après un bon bain, un bon verre, un bon massage et... La porte d'entrée était ouverte. Harold resta figé plusieurs interminables secondes avant de s'engouffrer dans le vestibule, sentant le vertige induit par la drogue le gagner à nouveau, heurtant meubles et murs, appelant Maria Chen, remarquant à peine les meubles renversés jusqu'au moment où il s'en mêla les pieds dans une chaise et s'étala lourdement sur la moquette. Il se redressa d'un bond et continua à parcourir la maison en hurlant. Il trouva Maria Chen dans son bureau, recroquevillée sur le sol derrière le secrétaire. Ses cheveux noirs étaient poisseux de sang, et son visage tuméfié était presque méconnaissable. Ses lèvres bleuies étaient déformées par un rictus révélant au moins une dent cassée. Harold sauta par-dessus le secrétaire, mit un genou à terre et posa doucement la tête de Maria Chen sur l'autre. Elle gémit lorsqu'il la toucha.
« Tony !»
Jamais Tony Harold n'avait ressenti colère aussi violente, aussi incandescente, mais il s'aperçut qu'aucune obscénité ne lui venait à l'esprit. Aucun cri ne s'échappait de sa bouche. Lorsqu'il réussit à parler, sa voix n'était qu'un faible murmure.
« Qui t'a fait ça ?
Quand ?» Maria Chen fit mine de prononcer un mot, mais sa bouche lui faisait trop mal et elle dut refouler ses larmes. Harold se pencha sur elle pour entendre son murmure lorsqu'elle fit une nouvelle tentative.
« Hier soir, trois hommes, ils te cherchaient. Ils n'ont pas dit qui les envoyait, mais j'ai vu Richard Haynes dans une voiture, avant qu'il sonne. »
Harold lui fit signe de se taire, la prit dans ses bras et la souleva avec un luxe de précaution. Comme il l'emportait dans sa chambre, pensant avec émerveillement qu'elle n'avait subi qu'un sévère passage à tabac, dont elle n'aurait aucune peine à se remettre, il s'aperçut à sa grande surprise que ses joues étaient inondées de larmes. Si les hommes de Barent étaient venus le chercher ici hier soir, pensa-t-il, il ne faisait plus aucun doute que c'était Willy qui l'avait kidnappé. Il aurait bien aimé pouvoir téléphoner à Willy. Il aurait bien aimé lui dire qu'il était désormais inutile de jouer à Colin Maillard, de prendre toutes ces précautions ridicules. Harold ne savait pas ce que Willy avait l'intention de faire à Barent, mais il était tout disposé à l'aider.